Donc aujourd'hui, on va voir essentiellement une chose qui est la récursion. Donc la récursion est un phénomène qui est fondamental en informatique, puisqu'en fait, c'est ça qui base une bonne partie des principes, comment dire, de ce qu'on appelle la calculabilité, c'est-à-dire qu'est-ce qui est calculable, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et c'est aussi ça qui fonde entièrement toutes les théories de preuve qui permettent de vérifier qu'un programme fait bien, enfin est bien conforme à sa spécification. Et ça, c'est une chose extrêmement importante, surtout quand vous écrivez des programmes qui ont à traiter des choses, je dirais, sérieuses, comme les centrales nucléaires, la sécurité de vol des avions, etc., etc. Par exemple, pour vous donner des exemples, les métros automatiques, comme il y a à Lille, ou comment dire, il y a, comment dire, dans la ligne 14, etc., les programmes sont prouvés. C'est-à-dire qu'on ne fait pas simplement des tests pour voir si les programmes marchent. Et les programmes marchent, c'est des choses comme, par exemple, faire en sorte que quand les trains arrivent en gare, ils s'arrêtent. Que s'arrêter, ça veut dire faire moins de 0,01 mètres par seconde lorsqu'on est à quai. Que les portes du quai ne s'ouvrent que lorsque le wagon est en face, etc. Et ce qu'on veut, c'est pas faire des tests pour voir si ça marche, parce que les tests ne servent qu'à montrer qu'il y a des erreurs. Ils ne servent jamais à montrer que les programmes marchent. Ils servent à trouver des erreurs. Par contre, si on veut s'assurer que ça marche, alors on est obligé de faire des preuves, c'est-à-dire on a quelque part une propriété formelle qui est par exemple les portes du quai ne s'ouvrent que quand le wagon se trouve exactement en face et à moins de 5 cm, etc. Et ensuite, on prend les programmes et on applique des théories mathématiques dessus, des théories de comment dire logique et autres, pour prouver que le programme effectivement satisfait cet invariant-là. Et ça, tout ça, toutes ces propriétés-là sont basées uniquement sur les problèmes de récursion, sur la notion de récursion. Toujours pas vert ? Ah, alors peut-être qu'il faut appuyer dessus quand même. Allez-y. Bien. On va voir si j'accroche l'image maintenant. Alors, la récursion. La récursion entretient une, comment dire, une grande parenté avec un phénomène que vous avez vu probablement en terminale, qui est la récurrence, le principe de récurrence. C'est en terminale que vous le voyez maintenant ? Non ? Vous l'avez vu quand ? Vous l'avez vu ou pas vu ? Hier, vous l'avez vu ? Ben écoutez, c'est tout frais. Alors, il y a une grande affinité avec la récurrence qui est une propriété qu'on vous a enseignée probablement sur les, comment dire, les antinaturels. Sauf qu'en informatique, cette propriété est généralisée à des ensembles dont les mathématiciens n'ont pas vraiment d'idée. Le principe de récurrence dit qu'en gros, si vous arrivez à prouver une propriété sur 0, et qu'ensuite vous arrivez à prouver que si elle était vraie sur n, alors vous savez la prouver pour n plus 1, alors la propriété est vraie pour tout n. En fait, cette propriété-là, on l'utilise en termes récursifs, en sens exactement contraire en informatique. C'est-à-dire que on a un problème qui existe à un niveau n plus 1. Si on arrive à réduire ce problème au niveau n plus 1 en un problème de niveau n, alors, d'une certaine manière, on a cassé un problème, on a un problème un peu plus simple. Un peu plus simple parce qu'au lieu de traiter au niveau n plus 1, vous l'avez réduit en une succession finie de problèmes au niveau n. Ensuite, vous prenez ces problèmes de niveau n et vous les réduisez eux-mêmes en appliquant exactement la même technique. Vous les réduisez donc au niveau n moins 1, puis n moins 2. Et là, on tombe sur une propriété extrêmement intéressante de n, qui est, qu'on appelle ça en termes techniques, un ensemble bien fondé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chaîne de suite, si vous voulez, infiniment décroissante dans n. Si vous partez d'un nombre et vous faites moins 1, moins 1, moins 1, moins 1, vous tomberez au bout d'un nombre fini de pas sur 0. Et là, 0, si vous savez dire qu'un problème de niveau 0, vous savez le résoudre parce que c'est un cas de base, c'est un cas trivial et vous savez le faire, alors vous avez réussi à transformer un problème d'un niveau quelconque, de n, en une suite éventuellement gigantesque de problèmes de niveau 0. Que vous résolvez tous, et après vous n'avez plus qu'à recomposer pour obtenir la situation finale. Donc la récursion d'une certaine manière conduit à casser les problèmes de manière à les transformer en des choses plus petites, alors que le principe de récurrence consiste à dire, si je sais prouver sur zéro, je sais prouver ensuite sur les autres, c'est-à-dire sur les non-successeurs. La vision mathématique est d'une certaine manière constructive sur n, vous prouvez sur 0, sur 1, et ensuite vous prouvez sur n, n plus 1, etc. Alors que la vision informatique est complètement inverse, vous prenez un problème de niveau n et vous le réduisez en une succession de problèmes de niveau inférieur. Bien. Alors, j'espère bien maintenant arriver à obtenir mes transparents, ce qui n'a pas l'air d'être le cas. On va essayer de voir si l'appareil accroche la vidéo maintenant. Alors, on en était là, donc dans la récursion, je ne me souviens absolument plus de mes transparents. Et donc, je voulais vous montrer en fait deux premiers exemples de fonctions qui sont récursives et de montrer effectivement comment elles se calculent. Donc, les deux fonctions qu'on va prendre sont des fonctions, je dirais, essentiellement, je dirais, emblématiques du calcul récursif. C'est la factorielle et la puissance. La factorielle, quand on vous l'a enseigné, comment dire, en maths, on vous a dit quelque chose comme, par exemple, que la factorielle de n, c'était 1 fois 2 fois blablabla fois n. Et en général, on vous disait c'est ça, et puis par convention, on rajoute que la factorielle de 0, c'est en fait 1. Et ça, c'était les deux règles en général que l'on vous donne pour, comment dire, vous débrouiller en maths, pour vous dire c'est ça la factorielle. J'ai déjà mentionné plusieurs fois que le langage mathématique était particulièrement ambigu. Il l'est, parce qu'en fait, ce truc-là n'est pas une vraie définition, en ce sens que on n'a à peu près aucune idée de comment ça peut marcher en informatique. Et la raison essentielle est là. C'est que vous avez ici trois petits points. Et ces trois petits points en maths, ça signifie, et n'importe quel imbécile est capable de mettre ce qu'il faut à la partie, dans les trois petits points. Le seul problème, c'est qu'on a affaire à une machine qui est particulièrement imbécile, et que ce procédé-là est un procédé... Je crois que le vidéoprojecteur a vraiment un problème. Et que donc, ça va probablement mal se passer pour les transparents. Bien. Alors, on va improviser le cours, parce que je n'ai pas pris copie des transparents. Donc, comment dire, les trois petits points sont particulièrement ambigus. Et je vais essayer de vous le montrer. En fait, ça dit, c'est comme ça. Maintenant, regardez ce truc-là et dites-vous, c'est quoi la factorielle de 1 ? Ben, la factorielle de 1, vous vous dites, c'est 1 fois 2 fois, je mets quelque chose ici, et puis fois 1. Sauf qu'on sait bien que c'est la factorielle de 1, c'est 1 tout court. Et là, déjà, vous voyez que la factorielle de 1, ce n'est pas 1 fois 2 fois quelque chose à inventer fois 2, fois 1, pardon. Puisqu'en fait, ici, on a admis qu'il y avait une espèce de règle implicite qui était que les trois petits points, c'est les nombres qu'il y a entre 2 et n. D'accord ? C'est-à-dire qu'en fait, les trois petits points ici, c'est pas n'importe quoi. C'est, on voit bien que quand on dit 1, 2 et puis trois petits points n, c'est qu'en fait, on veut dire la suite des nombres entiers. Et donc là, vous voyez qu'il y a beaucoup d'informations qui ne sont pas dans ces trois petits points-là. Ce truc-là n'est pas constructif. Donc déjà, pour la factorielle de 1, ça marche pas. Mais la factorielle de 2, ça marche pas non plus. Parce que la factorielle de 2, c'est pas 1 fois 2 fois 2. C'est 1 fois 2, tout court. Ce qui veut dire que même ce truc-là, en fait, les trois petits points ici, ça a la propriété éventuellement de dire, et ce truc-là n'est pas forcément utile, parce que le n, en fait, quand c'est 2, c'est la même chose, etc. Vous vous rendez compte, effectivement, que tout ça est d'une ambiguïté totale. C'est-à-dire qu'en fait, si vous ne savez pas décoder ce genre de sens, trois petits points, eh bien, vous comprenez rien. Parce que les mathématiques ne sont pas faites pour être, je dirais, calculées, elles sont faites pour, passer des idées entre personnes. Donc, vous voyez bien que cette définition-là, elle est complètement ambiguë et que donc, elle n'a pas de sens en informatique. Alors maintenant, il y a des mathématiciens qui se sont posés, des logiciens qui se sont posés la question il y a fort longtemps, c'est-à-dire à peu près dans les années 30, de se dire, est-ce qu'il n'y a pas moyen de rendre la langue mathématique un peu moins ambiguë, de manière à ce que les mathématiciens de tous côtés, de tous bords, de toute langue et de toute culture, puissent se comprendre. Et une des choses qu'il faut faire, c'est bannir les trois petits points. Les trois petits points, c'est la plaie des maths, parce que c'est en général, ça veut dire, on met trois petits points en disant, le lecteur inférera de lui-même ce que ça veut dire. Sauf que si vous ne comprenez pas ce que ça veut dire, ben vous ne pouvez pas inférer ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il y a un problème d'amorçage qui n'est absolument pas réglé avec ce truc-là. Donc le problème, c'est d'arriver à se débarrasser complètement des trois petits points. Et donc, la définition auquel on est arrivé au bout d'un moment récursive de la factorielle, c'est la définition suivante. La définition suivante dit, la factorielle de n, c'est en fait n fois la factorielle de n moins 1 quand n est plus grand que 1. Maintenant, vous rajoutez que la factorielle de 1, c'est égal à 1. La convention que la factorielle de 0 est égale à 1, c'est une convention qui n'a rien à voir avec la factorielle, c'est simplement parce que c'est pratique. Vous pouvez la rajouter, mais que vous la rajoutiez ou pas d'une certaine manière, c'est un peu un axiome superflu. c'est une chose qui est pratique, mais qui n'est pas, comment dire, vraiment impliquée par la factorielle. Et là, vous voyez que maintenant, vous avez un processus calculatoire qui est complètement décrit et qui n'a pas de trois petits points. Pourquoi ? Parce que si j'applique mes formules et que je dis c'est quoi la factorielle de 3, j'applique mes formules qui sont ici et je vois que la factorielle de 3, me dit ma définition, c'est 3 fois la factorielle de 2, mais la factorielle de 2, c'est 2 fois la factorielle de 1, et la factorielle de 1, c'est 1. Et donc j'ai bien ma définition que la factorielle de 3, c'est 3 fois 2 fois 1. Point, aucune ambiguïté, c'est fini. Et donc vous voyez en fait que l'informatique, en fait, par le biais de la logique, est venue à dire, essayons d'avoir des définitions qui sont d'une certaine manière constructive et calculatoire, c'est-à-dire que essayons d'avoir des définitions pour lesquelles on peut les utiliser pour calculer des choses. Cette définition-là est inutilisable pour le calcul. Bien, c'est le filet. Et donc voici une première définition. Alors, elle est dite récursive parce que elle utilise dans sa propre définition le symbole qu'on est en train de définir ici, c'est le symbole point d'exclamation qui représente la notation de la factorielle. Au passage, vous remarquerez que c'est une notation mathématique post-fixe, c'est-à-dire qu'elle suit le nombre dont on demande la factorielle, d'accord ? Au contraire de beaucoup de notations mathématiques qui sont en général plutôt préfixes, on dit « donnez-moi le sinus de x », là on dit « donnez-moi la factorielle de n », mais on met le terme de la factorielle derrière. Et là, vous voyez effectivement que le terme que l'on définit apparaît dans sa propre définition ici. On nomme ce processus donc un processus récursif parce que le symbole que l'on définit figure dans sa propre définition. Est-ce que vous connaissez déjà des choses qui sont récursives ? C'est-à-dire dans lesquelles le terme même que l'on cherche apparaît dans sa propre définition ? Non, c'est pas la bonne réponse. Ben oui, dans les équations. Parce que quand vous écrivez par exemple 3x égale x moins 2, vous avez une définition qui dit je définis x en fonction de x. C'est une équation. En fait, d'ailleurs, ça, c'est une équation. C'est une équation dont la solution est la fonction factorielle. Et c'est ça la bonne façon de faire. Alors ensuite, il y a des tas de théories sur la nature de toutes les solutions, parce qu'il y en a une infinité. Et ensuite, en termes, je dirais, de théorie, on prend la plus petite de toutes les solutions qui existent. Et la plus petite de toutes les solutions qui existent, c'est la factorielle bien connue, qui ne marche que sur les entiers strictement supérieurs à ou égaux à 1. Parce qu'ensuite, vous pouvez définir des tas d'autres solutions, comme par exemple, vous dites, c'est la factorielle normale, sauf que vous voyez qu'elle n'est pas définie sur les nombres négatifs. Vous pouvez étendre la factorielle en disant, et sur les nombres négatifs, ça donne par exemple moins la factorielle du nombre positif. Ou ça donne autre chose. Tout ça, ce sont des prolongements possibles de la factorielle. Tous ces prolongements, en fait, ont une intersection, c'est qu'en tout cas, sur les nombres entiers positifs, ils donnent tous la même chose. Et c'est normal, puisqu'on a bien vu que la factorielle de 3, elle est parfaitement définie de façon non ambiguë. Pourquoi vous pouvez prolonger par n'importe quoi dans le monde négatif ? C'est que, regardez cette formule-là, j'ai dit que n était strictement supérieur à 1. Si je ne l'avais pas dit, vous auriez que la factorielle de moins 2, ok, donc c'est la factorielle de moins 2, donc je mets des parenthèses mathématiques pour bien dire que c'est la factorielle de moins 2 et pas moins la factorielle de 2, ok, là encore vous voyez effectivement l'ambiguïté mathématique, c'est que si je prenais ma définition en disant c'est quoi la factorielle de moins 2, il me dirait c'est moins 2 fois la factorielle de moins 3, qui lui-même est moins 3 fois la factorielle de moins 4. Et vous voyez que ce calcul, en fait, il diverge, c'est-à-dire qu'il n'aboutit jamais à une réponse. D'accord ? Donc c'est un calcul donc qui part en divergent, et du coup, effectivement, les factoriels n'étant pas définis sur les nombres négatifs par cette formule-là, vous avez le droit d'inventer, je dirais, n'importe quel type de réponse, à condition que ça vous satisfasse. Bien, donc toujours est-il que la vraie définition, c'est effectivement celle-ci, elle est constructive, c'est en fait une définition qui est une sorte d'équation, et qui dit la factorielle, elle est définie en fait par ces deux équations-ci. Et la factorielle, cette fonction-là, c'est la solution de ça. Donc voilà un procédé qui permet de définir de façon extrêmement précise la factorielle et qui permet surtout d'avoir un procédé calculatoire parce que ça s'écrit en scheme exactement comme ça se prononce. À savoir, essayant de l'écrire en scheme, ça donne ceci. Et on a en fait déjà maintenant tous les matériaux qu'il faut pour faire ça. Donc, c'est une fonction. Donc, comme toutes les fonctions, on commence par dire je définis une fonction. Cette fonction, c'est la factorielle. Une bonne chose en scheme, c'est qu'on a le droit d'utiliser le nom point d'exclamation comme nom de fonction. C'est une factorielle, donc ce coup-ci, on va écrire, au lieu d'écrire en maths n factorielle, on va écrire en scheme factorielle de n, avec les parenthèses, comme d'habitude, et le nom de la fonction, ça sera point d'exclamation, parce qu'on a l'habitude de nommer la factorielle point d'exclamation. Sauf qu'en scheme, je prends une notation préfixe, alors qu'en mathématiques, la notation est suffixe ou postfixe. Bien, voici le nom de ma fonction, point d'exclamation. Cette fonction, la factorielle, est une aire. Elle prend donc un unique nombre en entrée. Et maintenant, je m'aperçois que j'ai à coder en scheme, en fait, ces deux choses-là. Par quoi se singularisent ces deux choses-là? Eh bien, elles se singularisent par le fait que cette ligne-là est vraie si n est plus grand que 1, cette ligne-là est vraie si n est égal à 1, et éventuellement, cette ligne-là est vraie si n est égal à 0. Donc, il me suffit d'écrire que si n est plus grand, on a dit plus grand strictement à 1. Alors, donc si n est plus grand que 1, j'applique ma première règle, et ma première règle dit que la factorielle de n, c'est quoi? C'est n fois la factorielle de n moins 1. C'est tout. Je n'ai fait que recopier l'expression qui se trouve là-bas, en mettant des parenthèses, parce que je suis dans un langage qui aime les parenthèses. Mais c'est tout. Il n'y a pas plus ici que dans la première ligne, dans ces deux lignes-là, correspondent à la première ligne là-bas, qui dit c'est ça lorsque n est plus grand que 1. Il n'y a rien d'autre. Maintenant, je prends mon second cas. Mon second cas, c'est quand n est égal à 1, ça vaut 1. Alors allons-y. Quand n est égal à 1, ça vaut 1. Et mon dernier cas, puisque justement je suis que sur les entiers positifs, c'est que quand n est égal à 0, ça vaut aussi 1. Et comme c'est le dernier cas, par exclusion, si n n'est pas plus grand que 1, que n n'est pas égal à 1, on est dans le cas n égale 0, à condition bien sûr d'avoir mis la spécification que la factorielle en fait était une fonction qui prenait des entiers naturels pour aller vers les entiers naturels, ok, c'est-à-dire les entiers plus grands que, comment dire, positifs ou nuls, j'ai donc ceci, je termine mon if et mon define, j'ai ma fonction complète. Alors maintenant vous me direz, attendez, c'est idiot de dire si n est égal à 1 ça vaut 1, sinon ça vaut 1. Ceci se simplifie agréablement en disant bah, ça vaut 1 dans le cas où n est inférieur ou égal à 1. Et je termine donc, je raccourcis. Ici, vous voyez, en fait, j'applique une règle algorithmique qui dit que si j'ai un programme qui s'appelle, si j'ai un programme qui est un if, venance, dans lequel j'ai une condition que j'appelle alpha qui est quelconque, et que si le résultat ici, c'est un certain résultat bêta, ou un certain résultat bêta, d'accord, eh bien j'applique une règle de transformation qui me dit, attendez, calculez une condition pour que, quand elle est vraie, je rende la valeur de bêta, ou que quand elle est fausse, je rends la valeur de bêta, ça veut dire que dans tous les cas, je rends la valeur de bêta. Ok, c'est une règle algébrique, hein. Ce n'est que de l'algèbre, ce truc-là. Sauf qu'on est en train de raisonner sur de l'algèbre à base de programmes, et pas sur des algèbres, sur les entiers réels ou les réels ou d'autres nombres de ce genre-là. C'est uniquement des règles algébriques. Ceci dit, si alpha donne une valeur vraie, je donne la valeur de bêta, et si alpha donne une valeur fausse, je donne la valeur de bêta. Dans tous les cas, je donne la valeur de bêta, point. Donc j'ai simplement appliqué ça en disant, si n est égal à 1, ça vaut 1, sinon ça vaut 1, et bien dans tous ces cas-là, ça vaut 1. Et j'ai remplacé donc ces trois lignes-ci par 1 tout court. Donc voilà en fait le code de la fameuse fonction factorielle, et donc je retire ce truc-là que j'ai retiré pour arriver à ce code-là qui dit je définis la factorielle de n qui dit si n est plus grand que 1, c'est n fois la factorielle de n moins 1, sinon c'est 1. Et ça, vous le donnez à scheme, vous demandez la factorielle de 100 par exemple, et ça vous sort un nombre qui fait 3 ou 4 lignes de long. Je ne vous le montrerai pas parce que visiblement ça ne marche pas aujourd'hui. Donc voilà le principe récursif sur la factorielle. Et voyez donc que le problème de dire c'est quoi la factorielle de n, je l'ai réduit en un problème plus simple, un unique problème plus simple, qui est dire, eh bien, je peux le réduire à une multiplication avec un appel à la factorielle avec un nombre plus petit. Alors pourquoi ça marche? C'est parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les entiers naturels, c'est un ensemble bien fondé. Et quand je pars de n antinaturel positif et que je fais moins 1, moins 1, moins 1, moins 1, je finis par tomber sur 0. ou sur 1, ici, le cas présent. Donc, je descends, au bout d'un moment, cette condition-là deviendra fausse, et j'obtiendrai la valeur de base, ici, qui est 1. Donc la structure d'une définition récursive est toujours la même. Toujours la même, et voici en fait la structure d'une définition récursive sur les entiers naturels. Uniquement sur les entiers naturels. On verra au fur et à mesure du cours, où on fera des structures de données plus compliquées, qu'il y a d'autres schémas de récursion sur d'autres structures de données qui partagent des mêmes caractéristiques, mais qu'on verra plus tard. Donc la structure d'une définition récursive sur les entiers est naturelle, est simple. Si j'ai une fonction que j'appelle f et qui est récursive sur un entier n, eh bien elle a, ou plus exactement, on peut toujours la ramener à quelque chose qui ressemble à ça. Si n est plus grand que 0, alors quelque chose qui implique f appliqué à des nombres du genre n-1 un peu plus petit, sinon ce qu'on appelle un cas de base, c'est-à-dire le cas où n est égal à 0, le cas de base, et j'ai terminé. La structure de récursion est soit le nombre est encore assez haut, et je décompose le problème qui est de savoir ce que vaut f sur n en un ou des problèmes qui travaillent sur des nombres plus petits, d'accord ? Soit le n est égal à 0, et je suis ce qu'on appelle dans le cas trivial, et à ce moment-là, je réponds la valeur triviale associée à ce calcul-là. Et donc, ça ne peut que terminer, comme je le disais, puisque le problème sur n se réécrit en des problèmes sur des nombres plus petits, ces problèmes sur des nombres plus petits se écrivent eux-mêmes sur des nombres encore plus petits, au bout d'un moment, tous ces problèmes-là se terminent sur des problèmes triviaux qui sont tous n égale 0, et donc, je sais les résoudre, puisque le cas de base trivial ici me permet de savoir quelle est la valeur associée à ça. Alors, voilà donc la théorie, je dirais, de la récursion, c'est d'une simplicité extraordinaire, c'est lié à la récurrence, sauf que vous le voyez, c'est utilisé en fait un peu à l'envers, en ce sens qu'on part de problèmes compliqués pour les ramener à des problèmes simples. Vous avez des, comment dire, quelquefois des jeux mathématiques là qu'on voit dans certaines revues, où par exemple, il y a une histoire où il y a Hercule qui doit couper des têtes à un dragon, et donc chaque fois qu'il coupe une tête, il y en a 7 qui repoussent, mais les têtes repoussent avec un coup un peu moins haut que le coup précédent. Donc en fait, l'idée c'est que vous partez d'un problème, et ce problème-là, quand vous le réduisez à des problèmes plus petits, vous coupez les têtes, en fait, il y a des tas de sous-problèmes qui apparaissent, c'est-à-dire qu'en général, là, dans l'exemple, il y a 7 fois plus de sous-problèmes qui apparaissent, mais tous ces sous-problèmes-là, on travaille sur un nombre qui est plus petit. C'est-à-dire que vous avez de plus en plus de sous-problèmes, mais ils sont toujours de niveau encore plus petit. Ce qui fait que réduire le problème initial, c'est 7 sous-problèmes, c'est 49 sous-sous-problèmes, c'est 7 au cube sous-sous-sous-sous-sous-problèmes, mais au bout d'un moment, vous avez un nombre énorme de sous-problèmes à la puissance n, mais ils sont tous triviaux. Et à ce moment-là, vous les résolvez tous, et c'est fini. Donc c'est ça le principe de la récursion. Vous prenez un problème initial, vous le décomposez en des problèmes de la même nature, un peu plus petits, c'est-à-dire sur des nombres plus petits, et ipso facto, comme on est sur les entiers naturels, ça va tomber sur un cas de base qui est soit 0, soit 1, ça dépend du type de récursion que vous avez pris, mais à un près et à une translation près, vous y arrivez, et tous ces problèmes sont triviaux et se résolvent de façon triviale. Donc c'est ça l'essence de la récursion. Alors, on va regarder un second problème, qui est la fonction puissance. La fonction puissance permettant de calculer un nombre à une certaine puissance. Et là, on va voir que, là encore, la définition mathématique est assez ambiguë, et le processus récursif qu'on va mettre en œuvre pour définir cette chose-là, un, ne sera pas ambigu, et deux, devient calculable, ce que l'on veut bien sûr pour une machine. Donc l'idée là est de calculer quelque chose comme x à la puissance n, où n est un entier naturel, positif ou nul, x ça peut être n'importe quoi, un flottant, je m'en fiche. Quelle est la façon de définir x puissance n mathématiquement? C'est très simple, les maths disent, x à la puissance n, c'est x fois blablabla, trois petits points, et on retrouve encore ces trois petits points-là, et alors, en plus, derrière, ils mettent un truc comme ça, n fois. Donc voilà typiquement la définition de x puissance n en mathématiques. Alors, on rajoute quand même qu'il est astucieux que x puissance 0, là c'est plus une convention, c'est vraiment quelque chose qui est plus profond que ça, que x puissance 0 c'est égal à 1. Je devrais rajouter sauf x égale 0, mais je le laisse de côté pour l'instant. Donc voilà en gros la définition mathématique de la fonction puissance. Et cette fonction-là, ben là encore, vous vous apercevez que non seulement il y a les trois petits points, mais en plus on vous dit n fois. Ce qui veut dire que, ben, effectivement, si on dit donnez-moi la x à la puissance 4, ben, vous écrivez xxxxx 4 fois, et effectivement ça donne bien x à la puissance 4. Quand on demande x à la puissance 2, ça commence à devenir difficile, parce que ce n'est pas xx fois x avec ici rien, parce que j'en ai déjà 3, et il faut penser que ce x-là, ça sera le même que celui-ci, okay, et que x à la puissance 2, c'est en fait uniquement xx. Alors bien sûr, vous baignez dans ce système de notation depuis très longtemps, donc ça ne vous choque pas. Mais si vous n'aviez jamais vu ce système de notation-là, ça vous poserait des problèmes. Parce que là, en fait, il y a non seulement les trois petits points qui veulent dire vous complétez ce qu'il faut, et la spécification de compléter, c'est de dire ça doit apparaître n fois. Et donc c'est toujours les cas un peu, les cas qu'on dit un peu sur les côtés qui sont triviaux. Notamment si on demande x à la puissance 1, c'est quoi? Ben vous appliquez cette formule-là, et là, il faut concevoir que non seulement ce x-là, c'est celui-là, mais c'est aussi celui-là, parce que le tout doit apparaître une seule fois. Donc vous voyez que c'est complètement ambigu comme langage, et là encore, c'est pas calculable. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas demander à un bambin auquel vous auriez expliqué comment on fait les multiplications, vous lui filez cette formule-là et vous lui dites calcul x à la puissance 5, ben, il n'y arrivera pas. Parce qu'en fait, il faut arriver à comprendre ce que veulent dire les trois petits points dans ce contexte-là. Et là, les trois petits points dans ce contexte-là, ils incluent le fait que c'est n fois en dessous. Donc c'est incompréhensible, et ce n'est pas, encore une fois, une définition constructive. C'est-à-dire que, en regardant cette définition-là, on n'a aucune idée de savoir est-ce que c'est calculable ou pas. Donc comment faire de façon récursive pour définir cette fonction-là? Alors, on va le faire plusieurs fois, parce que on va voir aussi qu'il y a certains problèmes qui arrivent. J'ai dit et redit que l'informatique, c'était d'une certaine manière des mathématiques, mais avec une obligation d'efficacité, et on verra que ça va à l'œuvre, comment dire, très vite dans ce genre de problème-là. Essayons de donner une définition donc constructive, et bien sûr récursive là. X à la puissance, alors x0 est égal à 1, ça je dirais, a priori ça va être mon cas de base, pas de problème là-dessus. X à la puissance n. Est-ce que je suis capable d'exprimer ce que x à la puissance n veut dire? Comme j'ai déjà traité le cas x à la puissance 0, je peux, pour cette formule-là, dire je me limite au n supérieur ou égal à 1. Et là, je peux me dire, mais attendez, la factorielle, j'ai dit que la factorielle de n, c'était n fois la factorielle de moins 1, pourquoi je ne ferais pas un truc pareil, c'est-à-dire exprimer x à la puissance n en fonction de la puissance précédente qui est x à la puissance n plus 1, n moins 1, pardon. Donc allons-y, c'est quoi? Si je mets x à la puissance n moins 1, eh bien j'obtiens xn en disant c'est une simple multiplication de x par x à la puissance n moins 1. Et j'ai terminé. Parce que maintenant, en écrivant ça, si je dis c'est quoi x à la puissance 4, eh bien x à la puissance 4 me dit c'est simple, c'est x fois x au cube, mais x au cube c'est x fois x au carré c'est x fois x à la puissance 1, et x puissance 1 c'est x fois x puissance 0, et x puissance 0 c'est 1. Donc j'ai 1 fois x fois x fois x fois x, je retrouve mes 4x alignés, et c'est mon x puissance 4. Et donc vous voyez qu'il n'y a strictement rien de magique, c'est même plus simple à écrire, parce qu'il y a moins de symboles pour écrire ça que ça. Sauf que ça, c'est pas l'habitude des mathématiciens d'écrire comme ça. Et donc ils n'écrivent pas ça, parce que ils ont l'habitude d'écrire leurs choses comme ça. Qu'à cela ne tienne, hein. Il y a des gens qui préfèrent écrire avec des gros stylos à encre, d'autres avec des bics, et d'autres de taper sur des claviers. Mais, comment dire, c'est juste des questions de formulation, ça représente effectivement le même être mathématique qui est x à la puissance n. Simplement, cette définition-là, elle est compacte et calculable, celle-ci n'est pas compacte et pas calculable. Donc celle-ci a des intérêts que n'a pas la précédente. Et là encore, vous voyez le principe de récursion qui consiste à dire, lorsque j'ai le problème d'élever x à la puissance n, je le réduis en une multiplication, mais ça c'est un problème trivial que je sais faire, et une exponentiation à la puissance n-1. Mais comme je suis sur les n positifs, c'est-à-dire sur les n antinaturels, Je sais qu'en prenant N et en le faisant décroître petit à petit, je tomberai nécessairement sur N égale 0 au bout d'un certain temps. Et à ce moment-là, mon cas de base jouera et me dira x puissance 0, c'est trivial, c'est 1. Donc là encore, vous voyez, il y a un cas général qui permet de dire un problème de niveau N se réduit en un problème de niveau N-1, un unique problème de niveau N-1, et un cas de base qui dit, et quand vous arrivez à 0, c'est fini, c'est trivial, c'est 1. Alors allons-y, il ne reste plus qu'à écrire ça en scheme, et vous allez voir que ça va respecter en fait la structure encore de la récursion sur les entiers. Donc on va supprimer une partie de la définition précédente, et on va la remplacer par quelque chose qui permet d'exprimer la fonction puissance. Non seulement il n'y a plus de vidéoprojecteur, mais il n'y a même plus de craie blanche. Bien, je vais écrire avec la craie jaune. Alors allons-y. Pour vous montrer en fait que c'est pratiquement la même structure, je vais juste modifier un peu ce code-là, pour vous montrer en fait que maintenant, en modifiant très peu ce code-là, on va calculer la puissance n du nombre x. Alors déjà, le nom de la fonction change, on va l'appeler chapeau. C'est un signe qui est souvent pris pour dire x à la puissance n, on écrit souvent x chapeau n, qui est en fait la notation donc x à la puissance n, et que j'écrirai en scheme sous la forme chapeau xn. D'accord ? Souvent dans les langages de programmation, elle s'appelle exp pour dire exponentiation, et donc c'est ce qu'on va faire. Alors je change bien sûr la spécification. La spécification de l'exponentiation que j'ai donc appelée chapeau pour aller vite, c'est de dire je prends un nombre et un entier naturel, donc chapeau prend un nombre, croît un entier naturel et me rend un nombre qui est le nombre à la puissance n. La phrase expliquant la spécification, vous la connaissez parce que la fonction exponentiation est bien connue. Je prends donc chapeau un nombre que j'appelle x et une puissance n qui sera la puissance à laquelle je dois élever x. Premier test, est-ce que j'ai deux formules pour calculer la puissance, celle-ci et celle-ci. La différence entre ces deux formules, c'est que dans le premier cas, c'est n égale 0, et dans le second cas, c'est tous les cas non nuls, c'est-à-dire n supérieur ou égal à 1, ou n strictement positif. Donc allons-y, dans le cas où n est strictement positif, je dois calculer x à la puissance n. Qu'est-ce que c'est que x puissance n? C'est simplement dire, c'est x multiplié par l'exponentiation de x à la puissance n-1. Donc vous voyez que dans le cas où n est plus grand que 0, c'est-à-dire je suis dans le cas général, je dis que x à la puissance n, c'est x fois x à la puissance n-1. Et donc, vous voyez qu'en fait, la structure du code, c'est quasiment la même. Et maintenant, dans le cas où n est égal à 0, j'ai ma première règle qui dit x puissance 0 égale 1, c'est 1, j'ai terminé. Vous voyez en fait qu'en changeant grosso modo 3-4 caractères dans ma définition, je suis passé de la factorielle à l'exponentiation. Ce qui montre bien d'une certaine manière que l'une et l'autre obéissent au même schéma de récursion. C'est-à-dire que les récursions sur les entiers naturels ressemblent tout à ça. D'accord ? Bon, certes, effectivement, là, maintenant, il y a deux variables. D'accord ? Mais, en fait, la récursion se fait sur l'exposant, elle ne se fait pas du tout sur le nombre que l'on passe à la puissance, elle se fait sur l'exposant avec les mêmes règles que précédemment, à savoir, x à la puissance n, je le réduis en un calcul plus simple qui porte sur x à la puissance n-1. Je réduis, et au bout d'un moment, je tombe sur x à la puissance 0, qui est trivial à trouver. Donc, vous voyez, c'est systématiquement toujours la même démarche. Et donc, là encore, vous avez maintenant une définition qui est compacte et calculable, et passer de cette définition-là à la version scheme, c'est trivial, suffit grosso modo de mettre des parenthèses et de mettre la condition en tête pour dire c'est soit cette règle-là, soit cette règle-là, et le choix se fait sur cette condition-ci. Donc en fait, on passe de ces deux lignes-là à ces, quatre lignes-là de la définition de fonction de manière extrêmement, je dirais, simpliste. Bien. Alors, j'ai dit que les deux exemples, factoriel et exponentiation, étaient effectivement deux exemples de récursion à l'œuvre. Sauf que, rappelez-vous, en informatique, on veut être efficace. Et que quand on regarde en fait cette définition-là, à la puissance n, on s'aperçoit que pour faire x à la puissance n, je suis obligé de faire n multiplications. Et n multiplications, ça veut dire que x puissance 4, 4 multiplications, x puissance 8, 8 multiplications. Or, je sais que x puissance 8, c'est le carré de x puissance 4. Or, le carré, prendre le carré de quelque chose, c'est une multiplication. Donc, en fait, si j'avais x puissance 4, pour calculer x puissance 8, il me faut une multiplication. Il ne faut pas 4 multiplications suivantes. Et donc, on va essayer de donner une nouvelle définition de l'exponentiation qui soit plus efficace que cette définition-là. Cette définition en termes de ce qu'on appelle la complexité est une discipline de l'informatique qui étudie les algorithmes pour essayer de déterminer quelles sont les deux grandes propriétés qui nous intéressent, à savoir en combien de temps faut-il pour obtenir le résultat et combien de mémoire, puisque ce sont des ressources informatiques qu'on consomme, il faut pour obtenir ce résultat-là. En fait, l'exponentiation, là, on va juste s'intéresser au temps. L'exponentiation telle qu'elle est écrite là est ce qu'on appelle linéaire, parce que si vous lui donnez n, il faut n multiplications pour arriver au résultat. C'est-à-dire que si vous donnez un n deux fois plus grand, il vous faut deux fois plus de multiplications pour le faire. Et donc, c'est typiquement un fonctionnement linéaire. En fait, ce que l'on peut montrer, c'est qu'on peut calculer l'exponentiation de manière beaucoup plus rapide, et notamment en log de n, c'est-à-dire en ne faisant que log de n opérations, multiplication seulement. Alors, regardons un petit peu comment faire ceci. Nous allons modifier nos règles de manière à être un peu plus efficaces, et notamment, on va utiliser cette connaissance que l'on a des nombres, qui est que le carré d'un nombre se calcule en une seule multiplication. Et donc, une façon de faire, c'est la chose suivante, c'est de se dire, mais finalement, cette règle-là, elle est un peu générale, je pourrais la décomposer en deux sous-règles. Je pourrais par exemple faire, décomposer en lorsque n est pair et lorsque n est impair. Donc je pourrais avoir la règle x puissance 2n est égale à quelque chose, et la règle x puissance 2n plus 1 est égale à quelque chose. Vous êtes d'accord que si je remplace celle-ci par ces deux règles-là, je couvre bien tous les cas, puisque ici j'ai tous les cas n supérieur ou égal à 1, c'est-à-dire en gros tous les n sauf 0, et que là 2n, je vais les avoir tous, y compris 0, mais celui-là il est déjà couvert, et 2n plus 1, je les ai tous à partir de 1, donc l'ensemble des deux recouvre bien tous mes nombres supérieurs ou égal à 1. Et maintenant, c'est là que je vais utiliser les connaissances arithmétiques sur l'exponentiation. C'est que x puissance 2n, c'est quoi ? C'est x puissance n, problème plus petit, au carré. Oui ? X puissance n au carré, c'est x puissance n fois x puissance n. C'est une seule multiplication et j'ai obtenu x puissance 2n. Ce qui veut dire qu'au lieu de faire 2n multiplications ici, j'en ai fait n au pire pour obtenir xn et une seule pour passer à x puissance 2n. C'est-à-dire qu'en gros ici, le calcul, c'est au pire n plus 1 multiplication, alors que dans le cas linéaire ici, j'en aurais fait 2n. Donc vous voyez déjà que j'ai déjà pratiquement divisé ma complexité, en ce sens que je vais pratiquement deux fois plus vite là, puisque je fais au pire n plus 1 multiplication, et là j'en fais 2n. Donc je suis quasiment à la moitié. Et puis, dans ce cas-là, à 2n plus 1, j'ai pas vraiment de règle miracle qui me permette de dire comment faire pour aller plus vite. Alors je me casse pas, je n'ai qu'à reprendre cette règle-là et dire x puissance 2n plus 1, c'est x facteur de x puissance 2n. Ça mange pas de pain, c'est exactement cette règle-là que j'ai recopiée à cet endroit-ci. Ce qui veut dire que ici, en introduisant cette nouvelle règle-là à la place de celle-là, donc j'enlève cette règle-là et je la remplace par ces deux-là. Vous êtes d'accord que ces deux-là, en fait, recouvrent cette règle-ci à la petite astuce qui se trouve ici. Ce qui veut dire que chaque fois que je dois calculer la puissance d'un nombre et où la puissance est pair, d'accord, 2n, alors je gagne du temps. Ce qui veut dire que, par exemple, pour calculer x2, je calcule que c'est le carré de x, ça me fait une multiplication, mais x est x, et donc là, j'ai rien gagné, mais j'ai rien perdu. pour calculer x puissance 4, j'ai que x puissance 4, c'est en fait x puissance 2 au carré. Il me faut une multiplication pour obtenir x puissance 2, une seconde pour obtenir x puissance 4. Donc en deux multiplications, j'ai réussi à obtenir x puissance 4 alors qu'il m'en fallait 4. Prenez x puissance 8. X puissance 8, c'est quoi? C'est x au carré, le tout au carré, le tout au carré. X puissance 8, c'est x puissance 4 au carré, et x puissance 4 au carré, c'est x puissance 2 au carré. Donc j'ai x au carré à la puissance 4e, à la puissance 8e. Il me faut une multiplication ici, une là, trois multiplications, j'obtiens x puissance 8, alors qu'il m'en fallait 8. Et donc vous rendez compte qu'à chaque fois que là il m'en faut n, je suis arrivé à calculer en fait la puissance de x puissance 2n avec n multiplications. Ce qui veut dire que si vous regardez n sur 2 puissance n, ça tend vers 0 très très rapidement, ce qui veut dire que je suis dans un cadre qui n'est plus du tout linéaire. Alors bien sûr, il y a des nombres qui sont toujours difficiles à calculer, c'est les nombres de la forme x puissance 2 puissance n moins 1, parce que ceux-là, je suis obligé de faire effectivement beaucoup de multiplications, mais heureusement, tous les nombres n'ont pas cette forme-là. Et là, on voit que tous les nombres, en fait, qui ont dans leur décomposition le, comment dire, en facteur premier, des nombres pairs, 2, eh bien, on va pouvoir gagner à chaque fois des multiplications. Donc voilà, en gros, les deux règles que je propose. Maintenant, il ne reste plus qu'à les écrire. Écrivons donc, en scheme, le code correspondant à ça. Alors, allons-y. Je supprime mon schéma général de récursion qui, en fait, ressemble encore dans ce cas-là. Je cherche donc ma fonction chapeau x à la puissance n. Et je n'ai plus qu'à écrire. Donc, j'ai quoi comme règle? J'ai la règle, le cas de base qui se trouve ici. Et maintenant, j'ai deux cas généraux qui sont le cas puissance pair, le cas puissance impair. Alors, allons-y. Donc, premier cas, je vais regarder si je suis effectivement dans le cas où n est strictement positif. Parce que si n est strictement positif, je suis dans une de ces deux règles-là, je ne suis pas dans celle-là. Bien, si je suis dans le cas n strictement positif, il faut que je me demande si le n, alors le n que j'ai ici, ce n'est pas le n qui est là, parce que je n'ai pas encore déterminé si mon n était pair ou impair. Alors, pour ça, il faut que je calcule si un nombre est pair ou impair. Fort heureusement, en scheme, c'est déjà fait pour vous. Il y a deux fonctions. Une qui s'appelle even, point d'interrogation. La plupart des prédicats en scheme, c'est-à-dire les fonctions qui vous rendent un résultat booléen, se terminent par un point d'exclamation. Donc, ceci dit, est-ce que le nombre n est pair? Vous avez deux pair et impair. En anglais, ça se dit pair, even, et impair, ça se dit odd. Il y a un moyen mnémotechnique simple, c'est que even a 4 lettres alors que odd en a 3, ce qui vous donne le seuil de parité. Even c'est égal, ça veut dire qu'en gros les deux moitiés sont égales, et odd ça veut dire un peu bizarre, un peu bancal, et effectivement les nombres impairs sont bancaux. Banco, bancal. Je sais plus. Bien. Donc si le nombre n est pair, si le nombre n est pair, alors ça veut dire que je suis dans ce cas-là. Puisque je suis dans ce cas-là, allons-y. Le résultat, c'est quoi? C'est le carré. Alors, je vais inventer une fonction. On va pas l'inventer tout de suite pour l'instant. On va dire donc que c'est le carré de x puissance n. Donc, c'est la multiplication de... Oui? Pardon? Le seul problème, c'est que... Oui, ce tableau-là, en fait, il est lisse. La craie glisse dessus. Je vais réécrire sur celui-là parce qu'il a l'air d'être mieux. Je sais pas, ils ont dû mettre un vernis sur le tableau là-bas. La craie glisse dessus sans attacher. Alors, je reprends très vite. Define chapeau de x et de n. Alors, premier cas, donc, on avait dit, est-ce que n est strictement positif? Donc ça, c'était pour dire, c'est pas la règle du cas de base, c'est les deux règles qui sont là. Deuxième cas, est-ce que la puissance qu'on me demande, even n, est paire? Si la puissance qu'on me demande est paire, alors c'est, on a dit le carré de x à la puissance n, donc c'est chapeau x. Alors, comment je trouve Ici, vous voyez que si je réécris mon équation en termes de n, cette équation-ci dit x puissance n, c'est en fait x puissance n sur 2, le tout au carré. D'accord? J'ai simplement fait un changement de variable où j'ai appelé ici ce qui était 2n, je l'ai appelé n ici. C'est un simple changement de variable, sauf que j'ai pris n dans les deux cas. Donc, ici, il faut que je fasse le carré multiplication de x à la puissance n sur 2 qui existe. Donc, je prends le quotient de n et de 2. Donc, ceci me calcule x à la puissance n sur 2 et je le multiplie par lui-même, x à la puissance n sur 2. Voilà, je le multiplie, j'ai mon carré. Maintenant, si n n'est pas pair, c'est qu'il est impair. Et à ce moment-là, je dis simplement que c'est x facteur de x à la puissance moins n1. 1, 2, 3, 4, le if. Et si enfin je suis dans le cas de base, n est égal à 0, le tout vaut 1, et j'ai terminé. Donc voilà, j'ai en fait recopié mes règles qui sont là. Je ne les ai pas recopiées de manière très intelligente, je vous l'accorde, et on va voir pourquoi ce n'est pas très intelligent. Alors, si je reprends mon code là, la première règle dit, est-ce qu'on est dans le cas n positif strictement? C'est-à-dire, est-ce qu'on est dans le cas de ces deux règles-là ou pas? La deuxième ligne du corps de la fonction dit, est-ce qu'on est dans le cas pair? C'est-à-dire, est-ce que je suis dans le cas de cette ligne-là? Si je suis dans le cas de cette ligne-là, je dis, ben, x à la puissance n, c'est en fait le carré de x à la puissance n sur 2. Et n sur 2 est bien défini puisque n est pair. Ok, il n'y a pas de reste puisque le reste est nul. Maintenant, quand je suis dans le dernier cas, c'est-à-dire que x n'est pas pair, que n n'est pas pair, ça veut dire que je suis dans ce cas-là. Et dans ce cas-là, j'applique ce qu'on avait vu, à savoir la même règle que précédemment, à savoir que dans le cas où impair, c'est x fois le prédécesseur de 2n plus 1 qui est 2n. Et qui lui-même, d'ailleurs, par récursion, se réécrira en ça, qui lui-même calculera x puissance n, etc., etc. Enfin, la dernière ligne, donc les deux lignes particulières sur l'exponentiation se trouvent là, et le cas de base dit que quand n est égal à 0, alors ça vaut 1 et c'est terminé. Alors maintenant, regardons ce code-là et essayons de voir si ce que l'on a écrit est conforme à l'intention. L'intention, rappelez-vous, était de diminuer le nombre de multiplications. Donc on va se poser la question de savoir, est-ce que j'ai vraiment diminué le nombre de multiplications en faisant ça? A priori, oui, puisque j'ai implémenté les règles qu'il fallait. Alors, regardons sur un exemple, simplement, x puissance 5, regardons ce que ça donne. Et là maintenant, je ne regarde plus les règles ici, je regarde ce que j'ai écrit. Qu'est-ce que c'est que x puissance 5? C'est en fait chapeau x 5. Ok, je réécris en skip. Chapeau x5, 5 est bien positif, 5 n'est pas impair, c'est donc en fait la même chose que x facteur de chapeau x4. Vous êtes d'accord? C'est l'application de la règle qui se trouve ici. Bien, maintenant, j'ai donc à calculer ça. Ça, c'est effectivement un n positif, mais c'est un n pair. Et donc, ce que dit ma réécriture, c'est que ça, c'est chapeau x2 facteur de chapeau x2. Je ne réécris que les parties, ici, le fois x, le préfixe reste constant, d'accord? Je ne le réécris pas pour aller plus vite. Maintenant, le fois x2 qui est là, il tombe encore sur le coup de n est positif, n est pair, donc c'est, en fait, ce truc-là, c'est fois chapeau x1, chapeau x1. D'accord? Je termine ma parenthèse, et j'ai encore celui-ci qui se calcule en, et donc là, je vais le mettre comme ceci, en exactement la même chose, à savoir, fois chapeau x1, fois chapeau x1. Et donc, vous voyez que j'ai expansé ça en le chapeau x1, et expansé celui-là en exactement la même chose. D'accord? Maintenant, pour chacun des termes qui sont donc ici, là et là, puisque actuellement, si je reprends mes signes égaux, je suis là, allez, je vais le réécrire, fois x, et je termine la parenthèse. J'en suis donc ici maintenant, c'est fois x fois ce truc-là et ce truc-là. Je termine ma parenthèse, ça doit être ça. Alors allons-y, tout ça, ça serait écrit en quoi? Eh bien, chapeau x1, c'est un cas où n est positif, où n n'est pas est impair, donc c'est en fait x fois chapeau de x0. Donc je réécris ça en fois x fois fois x chapeau x0. Donc en fait, cette chose-là s'est trouvée transformée en cette chose-là, d'accord, par application de la règle. Chapeau x1, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est donc x fois chapeau de x0. Le voici. Il y était une seconde fois, donc je reprends une seconde fois, je le mets ici, chapeau x0, je vais remonter un peu le tableau, non c'est l'autre, alors celui-ci a donné celui-là, celui-ci a donné celui-ci. Ensuite, je termine ma parenthèse pour cette multiplication-là. Je prends maintenant celui-ci qui va donner exactement la même chose. Donc, je recopie x chapeau x0 et x facteur chapeau x0. Je termine ma parenthèse ici. Je termine ma parenthèse là. Je termine ma parenthèse là. Donc, actuellement, le calcul de x puissance 5, c'est tous ces trucs-là. Sauf que maintenant, j'ai mes chapeaux x0 qui deviennent triviaux, qui sont remplacés partout. Et donc, tout ceci, en fait, est égal à, donc, fois x, fois x1, fois x1. Je remplace donc tous mes chapeaux x0 par 1. Je termine ma parenthèse ici. Je reprends ici fois. Je reprends exactement les mêmes termes, puisque je les ai encore ici, fois x1 et fois x1. Je termine mon fois ici et je termine ça. Donc voilà en fait mon résultat. Et maintenant, j'ai plus qu'à compter le nombre de multiplications que je fais. Alors, je supprime les multiplications par 1 parce qu'en fait, elles ne sont pas très intéressantes. Donc celles-là, je ne les compte pas. J'en fais 1, 2, 3, 4. Donc en fait, pour x puissance 5, j'en ai fait 4. Alors que si je prends mes règles ici, j'aurais dû dire x puissance 5, c'est x puissance 4. X puissance 4, c'est x puissance 2 puissance 2. Donc ça fait x fois x puissance 2 puissance 2. Donc j'ai une multiplication, 2, 3. Je devrais avoir 3 multiplications, j'en ai 5. Non, combien je dis ? 1, 2, 3, 4. 4. Donc là, il y a un problème. Alors le problème, c'est un problème, encore une fois, d'efficacité. C'est que, d'une certaine manière, ma notation mathématique me disait, on devrait gagner sur le nombre de multiplications, je ne gagne pas. Je regarde donc mon code, et je me dis, mais pourquoi je ne gagne pas ? Et en fait, je m'aperçois que mon code est débile, puisque vous voyez bien que cette chose-là est calculée une première fois, puis recalculée une seconde fois. Or, l'astuce consistait à dire, quand je prends le carré d'un nombre, le nombre est calculé une fois et je prends son carré, une multiplication. Là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai calculé x à la puissance n sur 2, et j'ai recalculé exactement la même chose. Donc en fait, je n'ai rien gagné, puisque j'ai dupliqué ce calcul-là. Ayant dupliqué, c'est normal que je retrouve un cas qui est encore proche de linéaire, puisque je n'ai rien, strictement rien gagné. Donc comment faire pour arriver à gagner ici? Eh bien, je vous l'ai dit la fois dernière, il y a une forme spéciale qu'on appelle let qui permet de mettre en facteur des choses. Mettre en facteur des choses, c'est les calculer une fois, les utiliser plusieurs fois. Donc en prenant un let, je vais pouvoir calculer une fois ça et l'utiliser deux fois. Donc je reprends ce code-là. Et je vous donne donc une nouvelle version de la fonction exponentiation qui va permettre de régler complètement le problème de cette chose-là. Alors allons-y, je reprends encore une fois mon exponentiation, chapeau x à la puissance n. La superstructure reste la même, si n est plus grand que 0 et si n est pair, alors... Eh bien, c'est là qu'il faut que je fasse attention, à savoir ne pas calculer cette chose-là deux fois. Allons-y. C'est let je vais l'appeler, xn sur 2. C'est un drôle de nom, mais je le prends comme ça. Je vais dire que ça, c'est donc chapeau de x à la puissance quotient de n et de 2. Donc, je calcule ici x à la puissance n sur 2, et je le mets dans cette espèce de variable-là. Donc, je vais prendre une variable temporaire, on va l'appeler TMP comme temporaire. Et maintenant, ce que je dis, c'est que je prends le carré de ce nombre-là. Et donc, j'écris que je fais TMP, TMP. J'ai donc calculé une fois la chose et pris son carré. Maintenant, si je ne prends pas, le nombre n'est pas pair, je prends le code, le reste du code et je ne le change pas. Donc ici, c'est x à la facteur chapeau x moins n1. Et dans le cas trivial, j'ai toujours 1, fermant, fermant. Donc voici mon dernier code qui, lui, a mis en facteur, vous avez vu, ce qu'on appelle une sous-expression commune, un calcul qui est fait deux fois à deux endroits, mais qui est rigoureusement le même. Je l'ai simplement mis en facteur. Et là, on va compter de nouveau les multiplications telles qu'on les avait là-haut. Alors, allons-y. Chapeau x5, c'est en fait toujours la même chose. Là, pour l'instant, on retrouve la même chose, à savoir, c'est fois x, chapeau x4. D'accord ? Mais ça, c'est égal à fois x, et là, je fais un let qui calcule dans TMP quelque chose qui est chapeau de x et de 2. Et je fais quoi? Je dis c'est TMP, TMP. Vous voyez, j'ai simplement réécrit le corps de la fonction ici. Alors, au passage, vous remarquerez que je suis passé d'expressions là qui ne contenaient que des étoiles de multiplication et des appels à exponentiation à maintenant un bout de code qui contient un let. Mais j'ai simplement fait une réécriture. Vous savez bien qu'on est ce qu'on appelle techniquement dans le jargon un modèle à substitution. Quand vous appliquez une fonction, vous prenez la valeur de ses arguments, vous prenez le corps de la fonction et vous remplacez ces arguments par leur valeur. Donc on voit effectivement que la fonction a pris x et n en entrée. Le x, je l'ai laissé sous la forme x parce que je me fiche de sa valeur. Et le n, je l'ai remplacé partout par sa valeur. J'ai simplifié le if ici qui dit non, ça c'est vrai. J'ai simplifié le if ici qui dit oui, c'est vrai. Et j'ai simplement réécrit cette formule-là en remplaçant simplement n par sa valeur et en effectuant l'opération qui était là, à savoir 4 divisé par 2 donne 2. Donc voici le code auquel j'arrive. Très bien, donc maintenant la chose à calculer, c'est cette chose-ci. Alors allons-y. Le tout maintenant est égal à quoi? Je reprends le préfixe, fois x, je reprends le let, je reprends le TMP, et maintenant je dis, mais attendez, x à la puissance 2, je reprends ma formule, 2 est bien positif, 2 est bien pair, donc c'est un let, et là je reprends let de TMP, chapeau x à la puissance 1. C'est-à-dire que j'introduis une nouvelle variable locale qui s'appelle de la même manière, mais là vous verrez qu'il n'y a aucun problème de portée, etc., qui dit soit TMP x à la puissance 1, alors prenez le carré de TMP par TMP, enfin faites la multiplication de TMP par TMP, ce qui revient à prendre le carré de TMP. Ce résultat-là, ça devient le résultat de ce TMP-là, et maintenant je prends le carré de ce TMP-là, et je termine ma multiplication, mon let et mon foie. Au passage, vous apercevez qu'effectivement, j'ai beau utiliser les mêmes variables, ça, ce TMP-là, c'est ce TMP, ce TMP, et par contre, il y a un autre TMP ici que je souligne en plus gros, qui correspond à ces deux variables-là. Ces deux variables-là, c'est celles-là. Les variables soulignées en bleu, ce sont celles-là, et il n'y a aucun problème de confusion. J'ai simplement utilisé les mêmes variables, mais on voit bien qu'en termes de portée, le TMP qui est là, c'est celui-ci, c'est-à-dire là, alors que le TMP qui est ici, c'est effectivement celui qui est là. Alors maintenant, je m'aperçois que je n'ai plus que le x1 qui est là, mais le x1, si je reprends mes règles, 1 est strictement positif, 1 n'est pas pair, donc c'est x fois chapeau x0. Donc, la valeur de tout ce truc-là, c'est exactement la même chose, sauf que je remplace chapeau x1 par fois x chapeau x0. Alors allons-y. Je reprends donc que c'est fois x fois let. Je vais le remonter un peu. Je vais juste laisser la dernière expression, c'est-à-dire celle où on était arrivé ici. Donc là, je reprends tout et je vais juste transformer cette expression-ci. Donc c'est un let toujours de TNP qui est égal à un let de TNP qui maintenant n'est plus x à la puissance 1, mais qui est fois x chapeau x à la puissance 0. Hop. Maintenant, j'en prends le carré, TNP, TNP, parenthèse, parenthèse, je termine mon let et je reprends le carré ici, TNP, TNP, je termine mon let et mon foie. Donc vous voyez en fait que la seule chose que j'ai fait, c'est de transformer cette expression x chapeau 1 en fois x chapeau x 0. Maintenant 0, si je reprends ma définition, 0 est le cas trivial où ça vaut 1, et donc j'évite de tout recommencer, je dis simplement ce truc-là, c'est 1. Et maintenant, je compte les multiplications. Ici, j'en ai une, ce qui me donne le carré de... donc ici, j'obtiens x à la fois 1, donc... Ah non, j'ai dit que les multiplications par 1, je ne les comptais pas. Donc je ne la compte pas. Je prends le carré, une multiplication, donc là, voici la première. Je prends le carré, donc là, j'arrive à la puissance 4, deuxième multiplication. Je multiplie par x, troisième multiplication. Donc vous voyez que maintenant, ce code-là, il fait exactement trois multiplications, exactement comme ce que j'avais dit plus haut. Et donc, vous voyez en fait que le gain, il est là. Le fait d'avoir mis en facteur cette expression fait que vous ne la faites qu'une fois, au lieu de deux. Mais c'est ça qui est gagnant, parce que si vous aviez à faire x puissance 8, en répliquant, vous auriez à calculer deux fois x puissance 4, puis à les multiplier. Mais pour calculer une fois x puissance 4, il aurait fallu faire calculer deux fois x puissance 2 et les multiplier. Ce qui veut dire que pour faire x puissance 4, il aurait fallu... Non, pour faire x puissance 8, il aurait fallu faire 4 fois le calcul de x puissance 2 et les multiplier. Et donc pour faire x puissance 8, il faut faire 8 fois le calcul de x et les multiplier. Donc en fait, en n'ayant pas factorisé le code pour x puissance 8, vous continuez à faire 8 multiplications, alors qu'en ayant fait cette simple mise en facteur, vous n'en faites plus que 3. Alors, pourquoi disais-je que en fait cette version-là donc est plus efficace et surtout elle est logarithmiquement plus efficace, c'est que, grosso modo, si vous vous intéressez qu'aux nombres qui sont des puissances de 2, pour calculer x à la puissance 2 puissance n, ok, eh bien en fait il suffit de n multiplications. C'est-à-dire que vous êtes passé de 2 puissance n multiplication à seulement n multiplications, mais n c'est en fait le logarithme en base 2 de 2 à la puissance n. Et donc c'est pour ça en fait que, en moyenne, on démontre que pour tout nombre, la complexité de ce nouvel algorithme, c'est grosso modo le logarithme de la puissance que vous demandez. Donc si vous me dites c'est quoi le nombre de multiplications qu'il faut en gros pour faire 100, pour passer x à la puissance 100, eh bien x à la puissance 100, 100 c'est inférieur à 128, 128 c'est 2 puissance 7, ça veut dire que grosso modo pour calculer un nombre à la puissance 100, il faut faire 7 multiplications. Et cette multiplication, c'est beaucoup moins que 100. Ce qui veut dire que le gain qui est petit au début devient de plus en plus énorme. Parce que pour 1000, pour calculer x à la puissance 1000, il vous faut dans la méthode linéaire 1000 opérations. Or 1000, c'est inférieur à 1024 qui est égal à 2 puissance 10. Ce qui veut dire qu'il ne vous faut plus que 10 multiplications seulement avec le nouveau système. Donc vous voyez que sur 100, on a dit 7 au lieu de 10. Sur 1000, on en fait 10. Au lieu de, non pardon, 7 au lieu de 100, pour 1000 on en fait 10 au lieu de 1000, et ça continue comme ça, c'est-à-dire c'est la différence qu'il y a entre log de n et n. Et vous savez que log de n sur n, ça tend vers 0, puisqu'effectivement le logarithme est une fonction qui croît très 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 lentement, et beaucoup plus lentement que la fonction linéaire y égale n. Donc voilà en fait un simple effet qui est une mise en facteur conduit à un code qui est logarithmiquement meilleur. Et ça, c'est donc un des problèmes de l'informatique, que d'arriver en fait systématiquement à essayer d'avoir des choses premièrement constructibles et deuxièmement efficacement calculables. Et donc c'est une erreur quand vous écrivez du code et que vous écrirez tout au long des TD, que de ne pas mettre en facteur des opérations qui portent sur l'opération récursive qu'on est en train de définir. Parce qu'en fait, si je remontre donc l'expression qui se trouve ici, et donc l'expression générale donc qui se trouve là, la clé du problème, c'est que le calcul temporaire que j'ai fait ici, il impliquait l'appel récursif à lui-même. Et c'est parce que cet appel récursif a été mis en facteur que l'on gagne. Si vous mettez un appel qui n'a rien à voir, vous allez un peu gagner parce qu'il y a un seul calcul au lieu de deux. Mais là, comme le calcul est récursif, gagner un calcul récursif veut dire que, au lieu d'en avoir trois, vous en avez deux, ce qui veut dire que vous avez fait deux tiers. Mais si maintenant le calcul récursif s'appelle deux fois, c'est plus deux tiers, c'est quatre neuvièmes, et deux tiers, c'est de l'ordre de 0,6, quatre neuvièmes, c'est déjà inférieur à un demi. Et si vous le faites trois fois, c'est maintenant 8 sur 27. Et 8 sur 27, c'est grosso modo 10 sur 30, c'est-à-dire un tiers. Et vous voyez que ça gagne énormément. Donc en fait, la clé de la chose est de mettre ici en facteur l'appel récursif, ce qui permet de diviser la complexité. Et quand je dis la diviser, c'est pas par un nombre, c'est de la faire passer de linéaire à logarithmique. Et donc, de rendre quelque chose qui est calculable, quelque chose qui pourrait demander des millions d'années en quelque chose qui devient simple et plus facilement acceptable. Il faut bien voir qu'en informatique, quand on traite des problèmes, il y a un certain nombre de problèmes pour lesquels il y a des lois physiques. C'est-à-dire que l'on sait par exemple que quand on trie des choses, il y a un théorème qui dit qu'on ne peut pas trier en moins de n log de n. C'est-à-dire si vous avez n choses à faire, vous ne pouvez pas faire moins de n log de n opérations. C'est pas possible. Ok ? Sur une machine séquentielle, etc., etc. Bien, ce qui veut dire, en fait, c'est une loi physique. Ce qui veut dire que si vous avez une méthode qui est en n carré pour trier, vous êtes mauvais. Et si vous avez à trier l'ensemble des Français, c'est-à-dire 60 millions de personnes, vous verrez la différence entre 60 millions au carré et 60 millions fois le log de 60 millions. Ce n'est pas du tout des chiffres qui ont la même ordre de grandeur. Et donc les ordinateurs qui sont derrière, ce n'est pas les mêmes. Et le temps que vous avez pour obtenir les résultats, ce n'est pas les mêmes. De temps en temps, c'est l'âge de l'univers pour obtenir certains résultats. C'est-à-dire 15 milliards d'années et des poussières. Ce n'est pas la peine d'escompter, voir le résultat de vos calculs. Donc il faut bien voir que ces questions d'efficacité sont au cœur de l'informatique. Et tout ce qui est linéaire est à peu près faisable. Tout ce qui est logarithmique étant en dessous de linéaire, c'est vraiment bien faisable en général. Tout ce qui commence à être au carré pose des difficultés. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de problèmes. Dès qu'on est avec des complexités de l'ordre du carré, on commence à avoir du mal. Il y a des algorithmes pour lesquels le meilleur algorithme connu est en cube, au cubique. Et là, ça veut dire que on peut le faire jusqu'à 10 000 éléments, mais on peut pas le faire au-dessus. On peut plus trier les Français avec un algorithme cubique. Et vous avez parmi toutes les classes de problèmes, des problèmes encore plus compliqués, qu'on appelle les problèmes hyper-exponentiels, pour lesquels on sait qu'il n'y a pas moins que E à la puissance E puissance N. Et donc ceux-là, on les fait sur 10 éléments à la main, et on met du temps, on les fait pas sur 15, parce que c'est fini. C'est trop compliqué. Donc il y a des classes de problèmes qui ont des complexités extrêmement différentes, et il faut bien voir que dans la vie de tous les jours, en gros, la dernière chose acceptable, c'est le carré, pas au-delà. Après, ça ne se calcule plus, sauf sur des échantillons triviaux. Et il y a des tas de problèmes, comme par exemple, vous entendez parler, le voyageur de commerce, etc., qui sont dans des classes, comment dire, assez compliquées, et qui en fait correspondent à des problèmes de la vie de tous les jours. Le problème dit du voyageur de commerce, c'est, vous avez N villes dans un pays, vous connaissez les distances qu'il y a entre toutes les villes, et vous cherchez à trouver un chemin qui passe par toutes les villes et qui soit de taille minimale. Ce problème-là est un problème, comment dire, extrêmement compliqué, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas d'algorithmes polynomiaux, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas d'algorithme en N puissance quelque chose permettant de le résoudre parfaitement, sans aucune erreur, ce qui veut dire que c'est à peu près infaisable à la main quand ça dépasse 100 villes. On ne sait pas le faire, quand je dis à la main. C'est infaisable par ordinateur quand ça dépasse 100 villes. On ne sait pas faire. Donc on est obligé d'admettre soit des algorithmes polynomiaux imparfaits, c'est-à-dire avec à epsilon près qui calcule la solution, et ce problème-là, il intervient partout. Par exemple, il y a un problème totalement équivalent, on montre que les problèmes sont équivalents, qu'on appelle le problème du sac à dos, et qui est un problème qui se pose à tous les gens, tous les marchands qui vendent des produits extrêmement chers, par exemple des truffes au chocolat à Noël. Quand vous vendez des truffes en chocolat en ballotin, la loi vous impose que si vous mettez 100 grammes, vous n'avez pas le droit de mettre moins de 100 grammes. Mais la loi du marché vous impose que si vous devez en mettre plus que 100 grammes, vous avez intérêt à en mettre le moins possible au-dessus de 100 grammes. C'est-à-dire 101 grammes, 102 grammes. Or les truffes, malheureusement, on les fabrique toutes une par une et elles n'ont jamais le même poids. On a beau faire des machines extrêmement parfaites, une truffe en chocolat, je ne sais pas comment ça pèse, elle est 12 grammes, 13 grammes, 11 grammes. Et l'idée, c'est, alors pas pour un ballotin de 100 grammes, c'est d'arriver à mettre le nombre minimal de truffes dans les ballotins. Donc vous avez des ballotins, vous avez une montagne de truffes, et vous dites, combien je peux faire de ballotins au maximum, sachant qu'aucun ne doit faire moins de 100 grammes. Ce problème est exactement comparable aux voyageurs de commerce. Ce qui veut dire qu'en gros, avec 100 ballotins, vous arrivez à en sortir, et si vous avez une chaîne de production qui sort des truffes en continu, et des ballotins vides en continu, et que vous cherchez à les remplir, le problème est infaisable. Et celui-là, il a un aspect économique évident. Et on ne sait pas faire. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a des lois, d'une certaine manière, physiques sur certaines choses, qu'on sait faire ou pas faire, et que là, j'ai essayé d'illustrer avec un petit exemple de complexité que une simple mise en facteur triviale, mais parce qu'elle contenait l'appel récursif, a permis de passer d'un problème qui était linéaire en complexité, le nombre d'opérations, en un problème logarithmique en termes de multiplication. Et ça, c'est essentiel à retenir pour vos futures études. Il y a des choses qui ne se calculent pas simplement. Bien, j'espère que la semaine prochaine, mon vidéo marchera mieux.